Fin de semaine,
chaque vendredi à 17h, l'essentiel de l'actu de la semaine en moins de 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dimanche, il était environ midi lorsque l'information la plus importante de cette semaine est tombée, interrompant les programmes de toutes les chaînes d'infos en continu.
Le procureur de la République d'Aix-en-Provence vient de signaler que les ossements du petit Émile avaient été retrouvés.
Cette macabre découverte a eu lieu dans une zone boisée située à un peu plus de 2 km du village du Auvernais. Ce petit hameau des Alpes de Haute-Provence où l'enfant avait été officiellement porté disparu le 8 juillet dernier. C'est une randonneuse qui est à l'origine de cette découverte, et si pour l'instant peu d'informations sur elle ont été données et qu'elle a été totalement mise hors de cause par les policiers, elle a tout de même fait preuve d'un acte assez troublant. Le réseau téléphonique ne passant pas et ne pouvant pas prévenir les autorités, elle a fait le choix de déplacer le crâne elle-même avant de l'apporter au service de police dans un sac plastique.
La promeneuse a découvert ses ossements entre 12h et 14h lors d'une promenade sur un chemin qu'elle se souvient avoir arpenté plus d'un mois avant. Perturbée par cette découverte, elle s'est saisie du crâne en prenant des précautions pour ne pas le souiller et l'a placé dans un sac en plastique. Elle est rentrée chez elle et a appelé la gendarmerie.
Le procureur de la République ajoute que toutes les pistes restent donc ouvertes. Homicide, accident, enlèvement par un animal. Qu'est-il donc arrivé au petit Émile ? Pourtant, le 8 juillet 2023, jour de sa disparition, un important dispositif de recherche avait été déployé à travers ce paysage qualifié de « très végétalisé » par le procureur. Les recherches avaient été menées dans un rayon de 5 km autour du hameau du Auvernais. Parmi les personnes engagées dans cette battue, des gendarmes, sapeurs-pompiers, des équipes cynophiles des Alpes de Haute-Provence qui s'étaient relayées pour tenter de retrouver le petit garçon, le tout couplé d'un élan de solidarité participative des habitants du village. Et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ces importantes recherches n'avaient à l'époque rien donné, alors qu'on sait désormais que les ossements du petit garçon se trouvaient bien dans cette zone censée avoir été passée au peigne fin. Première explication donnée par le procureur, les chiens renifleurs auraient pu être troublés par les fortes chaleurs de juillet qui auraient effacé toute trace de l'enfant.
Et que dire des conditions météorologiques dans lesquelles ces recherches ont été entreprises, les premières recherches? Les températures avoisinaient alors, à l'époque, 30 degrés à l'ombre, rendant la marche difficile, températures qui ont pu altérer l'efficacité des chiens pisteurs et multiplier la restitution de foyers de chaleur nocturnes détectés par les caméras infrarouges utilisées par l'hélicoptère qui a survolé la zone.
A noter que les vêtements du petit garçon qui ont été retrouvés à proximité de son crâne sont aussi en cours d'analyse. Le crâne d'Émile présenterait, lui, de petites fractures et des fissures post-mortem, précise le magistrat. Ce dernier présente aussi des traces de morsures, probablement causées par un ou plusieurs animaux. Depuis mercredi, les recherches ont repris pour quadriller la zone. Les habitants du Auvernais pensent également à un hommage pour le petit Émile, dont la mort a bien été confirmée, même si le mystère de sa cause demeure toujours entier. Qu'il fut long, ce mercredi, pour Édouard Philippe, l'actuel maire de la ville du Havre. Car c'est justement dans l'hôtel de ville de la cité Océane qu'ont eu lieu plusieurs perquisitions, se déroulant jusqu'à 19h. Elles sont la conséquence d'une enquête préliminaire débutée en décembre par le parquet national financier. Les faits reprochés à l'ancien Premier ministre sont les suivants: détournement de fonds publics, harcèlement moral ou encore prise illégale d'intérêt. Cette enquête fait tache et si les faits sont avérés, il viendrait ternir la réputation de l'homme qui avait commencé à teaser sur une potentielle candidature à l'élection présidentielle de 2027. Une info plus légère à présent, après ces actualités peu réjouissantes. Après les Césars, puis les Oscars il y a quelques jours, depuis cette semaine, c'est officiel, on connaît le nom du vainqueur du titre du rond-point le plus laid au monde. Mais rassurez-vous, pour cette année, ce prix qui effraie tous les architectes mais aussi les ingénieurs n'a pas été décerné à la France, mais bien à l'Angleterre. Il s'agit d'un carrefour de la ville de Swindon, cette petite bourgade située à l'ouest du Royaume-Uni, qui s'est vue offrir à son grand désarroi le précieux sésame. Avec un carrefour composé de 6 ronds-points à la disposition infernale, qui passe d'une conduite à gauche, le sens normal du pays, pour terminer à droite, comme en France. Un véritable casse-tête pour les conducteurs, qui a remporté haut la main le titre. Pourtant, s'il est récusé par la plupart des habitants, le lieu de passage qui a hérité du sobriquet de « rond-point magique » a fait ses preuves, réduisant de 30% le nombre d'accidents graves depuis sa mise en activité. carte illimitée coûtant 49 € et qui permettrait de prendre le train quand vous le désirez partout en France. Vous en rêviez ? Eh bien cette mesure va peut-être voir le jour. Ancienne promesse du président Emmanuel Macron, le projet avait pris un sérieux coup dans l'aile, annoncé par le président en septembre dernier, alors interrogé sur un pass similaire qui existe déjà en Allemagne, et alors au cœur d'un débat visant à rendre le transport ferroviaire plus accessible et plus écologique. Concrètement, ce pass doit permettre à 700 000 jeunes de moins de 27 ans de voyager en illimité à bord des trains régionaux pour un forfait de 49 € mensuels entre juin et septembre. Actuellement, le dernier rempart qui empêche le projet d'aboutir, ce sont trois régions qui résistent toujours par crainte de ne pas pouvoir conserver des budgets suffisants si le pass était mis en circulation. En circulation, les coureurs participant à la quatrième étape du Tour du Pays Basque l'étaient eux aussi hier, jusqu'à cette terrible chute impliquant plusieurs coureurs, dont le dernier vainqueur en date du Tour de France, Jonas Vingegaard. Placé en position latérale de sécurité par des soignants, puis évacué sur civière avec une minerve, les images font froid dans le dos. D'après son équipe, Vingegaard était conscient dans l'ambulance le transportant vers l'hôpital. Cette nouvelle chute rappelle la dangerosité de ce sport qui, malgré l'évolution des équipements, ne tient parfois qu'à un fil. Il y a quelques jours, c'est le Belge Wout van Aert qui avait lui aussi fait les frais d'une chute collective alors qu'il participait au tour baptisé « À travers la Flandre ». Un printemps décidément maudit pour les cyclistes et on espère qu'ils se rétabliront tous pour le Tour de France qui débutera le 29 juin prochain. C'est tout pour cette semaine. Pour ne rien rater de l'actu, mais aussi pour soutenir notre travail, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À très vite.